de suite, c'est le moment de retrouver un moment pour la Terre avec France Nature Environnement. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui, comme tous les mois, pour notre émission mensuelle Un moment pour la Terre. Donc en effet, c'est l'association France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence qui la prépare et l'anime. Et pour ceux qui ne connaissent pas depuis toutes ces années France Nature Environnement, nous sommes la fédération départementale des associations de protection de la nature. Et nous travaillons sur tout le département. Nous mettons en place tout type d'action. Notre objectif est bien sûr de préserver autant que possible l'environnement, la nature, de faire au mieux pour préserver cette richesse, cette biodiversité que nous avons sur notre département. Tout en prenant le bien-être humain, bien sûr, parce que nous faisons partie de l'environnement que nous essayons de protéger. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici. Alors moi, je suis Lisa Cunier, je suis salariée de France Nature Environnement 04. Et depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à la thématique des insectes pollinisateurs, notamment des abeilles domestiques, sauvages, et à leur vie, à leur mode de vie, à leur façon de fonctionner.
Alors moi je suis, bonjour à tous, je suis donc Morgane Charlot, je suis actuellement stagiaire à FNE 04 dans le cadre de mes études. Donc moi je porte un grand intérêt à la sensibilité animale, tout animaux confondus, et notamment aux avancées des scientifiques qu'on a actuellement et aux nouveaux regards qu'on doit poser du coup en lien avec ces avancées scientifiques. Donc j'étais contente que Lisa me propose de venir avec elle aujourd'hui sur cette émission.
Et alors aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer la question de la conscience des abeilles. Alors, le sujet nous intéresse, nous, depuis pas mal de temps, mais nous avons décidé d'en parler aujourd'hui parce que ce printemps, il y a eu un événement majeur. Le 19 avril a eu lieu une conférence à New York que j'ai eu le plaisir de regarder à distance. Lors de cette conférence a été adoptée la déclaration de New York sur la conscience animale. Cette déclaration a été signée par un grand nombre de scientifiques qui sont des experts dans le domaine de la conscience animale, et elle est basée sur de nombreuses études, et elle reconnaît la capacité des oiseaux et des mammifères à vivre des expériences conscientes, et avec beaucoup de prudence. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de peut-être dans cette formulation, mais avec beaucoup de prudence, cette déclaration, elle établit également une présomption raisonnable que tous les autres vertébrés, ainsi que de nombreux invertébrés, puissent vivre également des expériences conscientes et subjectives. Donc ça concerne entre les pieuvres, les crustacés, qu'on savait déjà être des animaux très intelligents, mais maintenant, c'est le premier pas vers la reconnaissance d'une sorte plus avancée de conscience chez eux. Et ça concerne également les insectes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui.
Alors avant de vous parler des études, on va définir ce qu'est la conscience. Alors, d'après le Larousse, qui donne deux définitions, la première, c'est que la conscience, c'est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Il s'agit donc des sens, de la sensitivité. La deuxième définition que donne le Larousse, c'est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose, comme l'existence d'un danger par exemple. Ainsi, dans les études, il s'agit d'expériences sensorielles, donc le toucher, l'odorat, la vue, le goût, voire les sens que les humains n'ont pas, comme la perception des champs magnétiques, tout comme d'expériences agréables ou désagréables, comme le plaisir, la douleur, la peur, etc. Bien sûr, des capacités linguistiques et rationnelles humaines permettent d'avoir des formes d'expériences que d'autres animaux n'ont probablement pas. Mais de même, de nombreux animaux peuvent avoir des formes d'expériences que nous, qui nous font défaut, qu'elles soient sensorielles ou possiblement émotionnelles.
Donc en fait, l'émission que nous avons voulu faire aujourd'hui, ça va vraiment au-delà juste d'une simple intelligence. Donc nous savions déjà, par exemple, que les abeilles, ce sont des insectes hyper intelligent, capable de beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, est-ce que ce sont également des animaux qui sont capables de ressentir quelque chose, de vivre des expériences subjectives, affectives, d'aller au-delà juste du simple intelligence ou d'une simple réaction, enfin pas simple, souvent c'est très complexe, mais d'une réaction de réflexe en réponse à un impact quelconque extérieur. Donc, est-ce qu'ils peuvent ressentir quelque chose ? Alors, vu la complexité du sujet, nous allons principalement faire le tour des publications scientifiques des dernières années, mais pas que, il y a aussi des publications plus anciennes. Et ces publications explorent le sujet de la conscience, des émotions, de la personnalité chez les insectes. Et beaucoup, si pas toutes ces études, ont été publiées en anglais. Donc d'où l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer de les présenter en français au mieux de nos capacités. Donc bon, vous nous excuserez... Par avance, on vous demande de nous excuser si des fois, peut-être, des termes qu'on utilise ne seront pas très précis. Peut-être que dans la science française, il y en a d'autres qui sont utilisés. Mais vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous des faits, j'avoue, incroyables que nous avons découverts en préparant cette émission. Et donc, après l'émission, nous vous fournirons, on dit, la liste des publications sur lesquelles nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Et comme ça, les éditeurs pourront vérifier toutes ces informations. Donc, on veut rester au maximum aussi scientifique que possible aujourd'hui. Et beaucoup de ces études ont été publiées par Lars Tschitka, professeur d'écologie sensorielle et comportementale à l'Université Queen Mary de Londres. Et il travaille sur ces thématiques depuis de nombreuses années. Et il a récemment publié le livre qui s'appelle « The Mind of the Bee » ou « L'esprit d'une abeille ». Alors, je ne l'ai malheureusement pas trouvé en français, mais je conseille vivement ce livre à tous ceux qui se sentent le lire en anglais. Il est super intéressant et passionnant. Et donc, Lars Tschitka, il vulgarise très bien ses études et ses recherches. Bon, voilà, ça reste en anglais, mais c'est un anglais assez accessible, en tout cas sur certaines parties, pour le découvrir. Et donc, nous essaierons d'éviter au maximum l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la tendance à attribuer aux animaux des réactions humaines, même si notre tâche sera compliquée, soyons honnêtes, n'ayant pas de témoignages clairement exprimés de la part des animaux, qui pourraient nous partager leurs ressentis, leurs sentiments, leurs expériences, ce qu'ils vivent, le plaisir ou le côté désagréable des événements qui leur arrivent. Et nous ne pouvons nous baser que sur des expressions non-verbales, donc comme la posture, le comportement, les mouvements, les interactions avec l'environnement, et ainsi que sur des réactions physiques, physiologiques, des fois chimiques, qui ont pu être mesurées par les scientifiques. Et nous voulons commencer la première partie de notre émission par la question de personnalité et de conscience de soi. Donc, est-ce que les abeilles démontrent des signes de personnalité différente et d'une sorte de conscience de soi ou pas du tout ?
Et c'est ce que nous allons voir, surtout au travers du coup des émotions, parce que les chercheurs se sont aperçus aussi que les individus avaient tous une personnalité. Donc ils étaient soit plus agressifs, soit plus intelligents, soit plus sérieux dans le travail, et c'est ce que nous allons voir de suite avec les bourdons. Donc les chercheurs, ils ont suivi avec l'aide de traceurs des bourdons sur l'ensemble des zones de butinage depuis leur premier vol jusqu'à leur mort, en passant par des découvertes très intéressante. Alors, ils se sont rendus compte que certains individus, notamment deux, après deux premiers vols d'exploration, n'ont visité que deux sites de butinage au cours de toute leur vie, ce qui représente très peu. Et un des bourdons ne s'est même jamais arrêté sur un seul site de butinage au cours de toute sa vie. Toutes ses activités, c'était plutôt de nature exploratoire, même si de nombreuses parcelles étaient disponibles pour lui. Il ne s'y arrêtait pas. Certaines sont donc plus aventuriers, explorent plus facilement, et d'autres, au contraire, prennent leur travail très, 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 très au sérieux et s'arrêtent à toutes les parcelles qui sont disponibles. Il y a une deuxième expérience qui a montré que des bourdons, certains bourdons étaient des génies. Et au contraire que d'autres, malheureusement, n'apprennent jamais. Donc, cette expérience en question, donc l'expérience en question, elle consistait à observer le comportement des bourdons face à une difficulté. Alors, ces derniers devaient tirer un fil pour accéder à une fleur artificielle placée sous une table de plexiglas, ce qui n'est pas une tâche naturelle dans la nature. Les bourdons n'ont pas à faire ça. Donc la grande majorité des bourdons ont dû suivre une formation progressive ou ont dû observer d'autres bourdons résoudre la tâche avant de pouvoir le faire par eux-mêmes, ce qui au passage montre une faculté d'apprentissage quand même de ces derniers. Mais deux individus, eux, ont cependant résolu la tâche spontanément. Alors, ils ont essayé, inlassablement, de se rendre sous la table en plexiglas à partir de positions variées, en utilisant diverses postures corporelles, jusqu'à ce que leurs pieds s'accrochent à la ficelle, provoquant un mouvement visible qui les pousse à approfondir la technique. Et à partir des renseignements vidéo qu'ils avaient pu obtenir en amont, eh bien, les chercheurs ils ont, sont aperçus qu'il s'agissait notamment d'individus particulièrement exploratoires, comme on en a parlé juste avant dans l'expérience qui a été réalisée juste avant. Et à l'inverse, ben, comme je le disais, il y a des individus qui ne sont jamais arrivés à tirer cette ficelle et qui n'ont jamais réalisé ce problème-là.
Donc, un autre sujet intéressant qui a commencé à être exploré déjà au début du XXe siècle, c'est la tolérance des abeilles différentes aux facteurs extérieurs. Bon, comme vous le savez, au moins nous les humains, en effet, on n'est pas tolérants de la même façon, on n'est pas sensibles de la même façon aux différents facteurs extérieurs. Et donc, c'est ce qui a également été testé sur les abeilles. Alors, en 1934, le lauréat du prix Nobel, Carl von Frisch, a publié une étude sur l'individualité des abeilles. Enfin, je pense que c'était une des premières, ou probablement la première qui explore ce sujet-là. Il a notamment testé si les abeilles étaient prêtes à accepter une récompense sucrée avec une basse tenue en sucre. Parce que vu que toute la vie des abeilles tourne autour de la récolte du nectar, donc le nectar, le sucre, c'est ce qu'elles recherchent tout au long de leur vie. Et donc les chercheurs leur proposent des récompenses souvent lors des expériences, justement pour les motiver à accomplir certaines tâches. Et donc là, ils ont voulu voir si par rapport à la quantité de sucre, les abeilles étaient égales et elles réagissaient de la même façon ou pas. Et donc, l'expérience a duré 24 jours. Et après ces 24 jours d'observation, les chercheurs ont constaté que certaines abeilles étaient plutôt difficiles à satisfaire. Donc, elles n'acceptaient pas une tenue trop faible en sucre. Elles cherchaient vraiment du nectar beaucoup plus sucré. Tandis qu'il y avait d'autres abeilles qui acceptaient assez volontiers le liquide moins sucré. Plus tard, il a été découvert que c'est ces particularités-là qui conditionnent également si l'abeille va devenir plus tard dans sa vie récolteuse du nectar ou du pollen. Donc il y a quelque part la question du talent inné ou de la sensibilité innée qui participe à la distribution des tâches et des rôles dans la ruche. Mais les scientifiques se sont encore plus penchés sur comment les rôles et les tâches sont distribués dans la ruche. Et du coup, bah justement pour explorer un peu plus cette question du talent, une sorte de talent inné, bien sûr, je laisse ça entre guillemets, qui ferait que les abeilles obtiennent des rôles différents, ou est-ce qu'il y aurait une sorte d'ordre centralisé de la part d'une abeille dans la ruche qui indique maintenant il faut faire ça, la ruche a besoin de ça. Et notamment, ils ont observé une ruche dans une situation où la température à l'intérieur montait. Donc, c'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus chaud. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que les abeilles les moins tolérantes à la chaleur donc, allaient abandonner leurs tâches courantes et allaient être les premières à se mettre à ventiler la ruche pour essayer de faire baisser la température. Si la température montait encore, d'autres abeilles, on va dire moyennement tolérantes à la chaleur, se joignaient à elles et ainsi de suite. Donc, plus la température montait, en fait, plus on allait avoir d'abeilles qui allaient ventiler pour essayer de faire baisser la température dans la ruche. Sauf qu'en fait, les scientifiques se sont rendus compte du fait que ça se passait de façon assez naturelle, et donc ce qui était provoqué par justement la sensibilité différente de chaque individu dans la ruche. Alors, c'est vrai que dans son livre, Lars Tietka, il fait une comparaison avec une colocation des gens où il n'y a pas eu de règles prédéfinies de distribution des tâches et où, par exemple, tout le monde laisse sa vaisselle dans l'évier et donc la vaisselle s'empile. C'est la personne qui est la moins tolérante à la quantité de la vaisselle sale dans l'évier qui va se mettre à faire cette vaisselle la première, et donc en absence de règles établies, malheureusement, ce sera toujours elle qui sera amenée à faire la vaisselle, mais elle deviendra vraiment professionnelle dans cette tâche. Et du coup, par exemple, en son absence, si elle part en vacances ou ailleurs, du coup, ça va être la deuxième personne la moins tolérante à la quantité de vaisselle qui, naturellement, à un moment, va se mettre à la faire. Donc, bon, c'est une parallèle avec notre comportement humain, bien sûr, mais en même temps, bon, c'est le scientifique même qui nous propose cette comparaison. Et c'est vrai que c'est assez parlant pour mieux illustrer les activités dans la ruche. Rapidement, avant de faire une petite pause musicale, je voudrais mentionner encore un autre très psychologique, pour lequel les chercheurs observent des variations individuelles chez les insectes. C'est le compromis vitesse-précision. Donc, ça a été observé encore en 1913 sur les blattes, mais ça a été également confirmé sur les abeilles, je vous assure. Les abeilles peuvent accomplir leurs tâches, comme par exemple la récolte du nectar, soit rapidement, mais avec le taux élevé d'erreur. Par exemple, en visitant les fleurs qui ne contiennent pas beaucoup de nectar ou qui ont déjà été visitées par d'autres abeilles, soit elles peuvent accomplir leurs tâches lentement, mais avec beaucoup plus de précision. Et dans ce cas, elles vont cibler que des fleurs qui sont réellement intéressantes. Et certains bourdons, certaines abeilles, sont constamment rapides et négligents, tandis que d'autres sont plus prudents, lents, et précis dans leur prise de décision. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, propre à chaque individu. Et en fait, étant donné que les individus qui ont des préférences différentes en matière de vitesse ou de précision peuvent s'en sortir mieux ou moins bien dans des différentes conditions écologiques, la colonie dans son ensemble pourrait mieux s'en sortir en hébergeant une diversité d'individus ayant des stratégies différentes. Donc, toutes ces différentes études démontrent que les abeilles et les bourdons différents ont réellement des personnalités différentes, ce qui peut être observé, ce qui peut être constaté, et qu'ils ont une sorte de trait de caractère qui sont propres à chaque individu. Et cette conclusion a également du sens du point de vue de l'évolution, puisque les différents individus, avec tout un spectre de réactions variées, sont dans l'ensemble mieux adaptés à l'environnement qui change, et ainsi ils peuvent mieux assurer toute la survie de la colonie. Voilà. Et du coup, bon, parce qu'on a, sorti quand même beaucoup d'informations, peut-être un peu compliquées, on vous propose de faire une petite pause, la pause musicale, et nous voudrions écouter un extrait du morceau L'apprenti sorcier, qui justement nous rappelle la partie sur les génies et ceux qui n'apprennent jamais. Thank you. C'était juste un petit extrait, puisque malheureusement, nous n'avons pas le temps d'écouter les 12 minutes de ce magnifique morceau. Mais c'était déjà un plaisir d'écouter ces 3 minutes. Donc nous avons commencé à parler de la conscience, de la personnalité, des différences. Et il y a aussi un autre aspect de la conscience que nous n'avons pas encore abordé, c'est la conscience de soi et de son propre corps. Donc c'est ce qui s'appelle la proprioception. Donc la question que les scientifiques se sont posées, c'est est-ce que les abeilles possèdent cette proprioception ou est-ce qu'elles sont vraiment préprogrammées toutes, des abeilles, des bourdons, etc., comme des petits robots. En fait, c'est ce qu'on croyait avant, que c'était vraiment des mini-robots, les insectes. Et est-ce que les bourdons et les abeilles vraiment accomplissent les tâches tous toujours de la même façon, peu importe ce qui se trouve devant eux. Il y a une étude qui répond à cette question, justement sur cette proprioception. Donc c'est, alors déjà, la proprioception, c'est la perception qu'a le cerveau de la position des différentes parties du corps dans l'espace et les unes par rapport aux autres. Ça permet le contrôle de la posture et la coordination des mouvements. Donc c'est comme nous, c'est de comprendre où on est situé dans l'environnement et anticiper des interactions avec notre environnement. Et donc, il y a eu une étude assez récente de 2021 qui a été réalisée sur les bourdons et elle donne des résultats vraiment intéressants. Alors, pourquoi les bourdons ? Là, contrairement aux abeilles, les abeilles dans la même ruche ont plus ou moins toute la même taille. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour les bourdons. Les bourdons peuvent avoir une taille très différente, allant de très petits jusqu'à ceux qui ont quasiment la taille de la reine. C'est très très variable au sein de la même ruche. Et du coup, les chercheurs ont présenté un défi à leurs bourdons. Donc, pour atteindre le monde extérieur depuis leur ruche, ils devaient traverser un petit espace dans un mur obstruant. La taille de cet espace variait de 20 mm, 2 cm, ce qui est plus petit que l'envergure de la plupart des bourdons, jusqu'à 60 mm de large, ce qui est plus grand que l'envergure de la plupart des bourdons. Et ils ont filmé un grand nombre d'approches des bourdons. En fait, pourquoi cet espace, ce trou à travers lequel il faut passer ? Et ben parce que c'est une sorte de tâche à laquelle les bourdons peuvent faire face dans la vraie vie, en essayant de passer entre les plantes, entre les fleurs, dans l'herbe, etc. Donc c'est quelque chose en fait qui leur est propre et que normalement ils savent faire, ils savent comment s'y prendre. Et du coup, les bourdons dont l'envergure était bien inférieure à la largeur du trou volaient directement au centre de cet espace. Ils bougeaient leurs yeux pour déterminer la meilleure façon d'éviter les collisions, mais ils ne s'arrêtaient quasiment pas, ils volaient directement parce que, en fait, ils avaient pu déterminer que le trou était beaucoup plus grand qu'eux et qu'ils pouvaient passer sans problème. Cependant, lorsque l'envergure des ailes des bourdons était plus grande que le trou, voler directement à travers risquerait d'abîmer leurs ailes. Et ça peut réduire l'efficacité du vol et la durée de vie d'un bourdon. Donc les bourdons les plus grands réorientaient leur corps et volaient prudemment, latéralement, donc de côté, à travers cet espace. Des fois même, ils se cognaient la tête contre le bord et ils guidaient leurs mouvements avec leurs pattes d'une manière apparemment délibérée pour mieux gérer leur corps, pour mieux passer à travers ce trou. Et aussi, avant d'approcher le trou, enfin, en approchant le trou, avant de commencer à trouver la meilleure façon de passer à travers, ils bougeaient aussi d'un côté à l'autre, donc de gauche à droite, de droite à gauche. Ce qui, les scientifiques pensent que c'était pour avoir une meilleure vision en 3D, une vision stéréo du trou, pour pouvoir mieux estimer les dimensions de ce trou et ainsi pour pouvoir déterminer la meilleure façon de passer à travers ce trou, ce qui est primordial pour la survie des bourdons. Et donc, bon, là-dessus, on voudrait terminer la première partie qui parle, à proprement dit, des personnalités et de la conscience des soi. Nous voudrions explorer aussi un autre aspect de la conscience, donc c'est ce qu'on a mentionné au début, c'est les émotions que les insectes ressentent potentiellement, on dit bien potentiellement, selon les différentes études, comme l'optimisme, la frustration, l'humeur ludique ou encore l'anxiété.
Alors, bah, effectivement, y a des études qui montrent que les abeilles peuvent ressentir de l'optimisme et du bonheur. Alors, afin de démontrer cela, eh bien, des chercheurs ont effectué des tests sur 24 abeilles en tout et les ont placées dans une chambre fermée. Alors, c'est le terme qu'utilisent les scientifiques. Ce n'est pas une chambre comme nous, on peut l'avoir. Mais à l'intérieur de cette chambre, du coup, étaient placés 4 tubes qui étaient disposés l'un à côté de l'autre, certains étant colorés et d'autres sans couleur, de couleur neutre. Donc, les abeilles sont préalablement conditionnées pour entrer dans le seul tube coloré contenant soit de l'eau, donc c'est le tube vert, soit de l'eau sucrée, c'est le tube bleu. Au début de l'expérience, la moitié des abeilles reçoit de l'eau sucrée et l'autre moitié ne reçoit rien du tout. Et les résultats, eh bien, ils ont montré que les abeilles ayant reçu du sucre au début de l'expérience entrent plus facilement dans les autres tubes à la recherche de nourriture. Elles sont plus optimistes, surtout vis-à-vis de ce qu'elles pourraient trouver au bout du tube, que celles n'ayant pas reçu de récompense et donc n'ayant pas reçu de sucre. Donc le sucre, il agirait donc non seulement sur l'activité et l'excitation des abeilles, mais également influencerait leur propension à faire des choix et à réagir face à certaines situations. Une autre expérience a confirmé ces résultats. Alors après avoir reçu une récompense sucrée, puis avoir subi une attaque d'un prédateur, les abeilles ayant bénéficié d'une récompense en amont retournaient se nourrir 4 fois plus rapidement après l'attaque que celles qui n'avaient rien obtenu du tout. Donc le sucre aurait donc généré un sentiment positif chez ces abeilles, diminuant ainsi leur pessimisme face à de futurs événements. Et plus récemment, des chercheurs ont étudié le comportement des abeilles en réponse aux fluctuations des neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine. Alors ces derniers, ils ont observé que les substances chimiques régulatrices de l'humeur augmentaient lorsque les abeilles recevaient une récompense de sucre et notamment lorsqu'elles butinaient. Donc en revanche, lorsque les abeilles étaient secouées dans un tube ou mises dans une situation anxiogène, la dopamine ou la sérotonine diminuait. Donc il nous semble que les abeilles prennent du plaisir à butiner.
Alors, par rapport à la dopamine, ça a été confirmé aussi par une autre étude où les bourdons recevaient la récompense sucrée, mais il y avait une partie des bourdons sur lesquels les scientifiques appliquaient l'inhibiteur de la dopamine. Donc, la substance, en fait, qui empêche à la dopamine d'agir sur le corps. Et ben là, en effet, les résultats étaient complètement différents entre les bourdons qui avaient juste reçu une récompense sucrée et donc qui avaient de la dopamine qui agissait sur leur corps, et entre ceux qui avaient l'inhibiteur de dopamine appliqué sur eux, donc qui ne pouvaient pas donc avoir la dopamine, l'action de la dopamine. En effet, ceux qui n'avaient pas reçu d'inhibiteur, ils avaient, alors on peut dire ils étaient un peu plus optimistes, puisque en effet, quand ils allaient explorer, ou notamment quand ils étaient présentés avec le choix, vous savez, Morgane a parlé de la couleur bleue pour une récompense sucrée et de la couleur verte pour une solution neutre, juste de l'eau. Et ben, quand ils étaient présentés avec une couleur ambiguë, une sorte de couleur turquoise, bleue, verte, pas clair du tout, et ben, ceux qui avaient reçu du sucre, ceux qui avaient reçu une récompense, ils voyaient vraiment le verre à moitié plein et se disaient que potentiellement il pouvait y avoir une récompense sucrée, ils allaient l'explorer plus facilement que ceux qui n'avaient pas reçu de récompense ou qui avaient reçu l'inhibiteur de la dopamine. Qui, du coup, on peut dire, voyez le verre plutôt à moitié vide. Bon, c'est vrai que dans cette partie-là, Morgane va vous parler surtout des émotions positives, de quelque chose d'agréable. Moi, je vais vous parler, malheureusement, plutôt des émotions négatives ou de quelque chose de désagréable dans la vie des abeilles et des bourdons. Et là, notamment... Donc je voudrais vous parler d'autres études qui explorent l'état des abeilles et des bourdons suite à une simulation d'une attaque d'un prédateur comme une araignée crabe. Alors, une araignée crabe, c'est vraiment un prédateur redoutable pour les abeilles et les bourdons. C'est une araignée qui se camoufle très bien sur les fleurs et il peut même changer sa couleur pour prendre celle des fleurs. Et si l'attaque est réussie, elle est mortelle même pour les grands bourdons. Du coup, l'expérience utilisait une araignée crabe robotique. Alors, attention, on n'a pas, les scientifiques, heureusement, n'ont pas vraiment tué des abeilles et des bourdons. Donc, ils ont construit une araignée crabe robotique qui se cachait dans les fleurs et qui saisissait brièvement un bourdon, mais elle le relâchait sain et sauf. Après cette expérience négative, les bourdons ont appris à inspecter les fleurs du laboratoire pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'araignée dessus avant d'atterrir. Bon, ça, on peut l'attribuer juste à une intelligence. On a une expérience, on attire des conclusions, on apprend. Mais certains bourdons semblaient également présenter ce que les chercheurs décrivent comme une sorte de trouble de stress post-traumatique. Les bourdons ont non seulement montré qu'ils évitaient les prédateurs, mais ils ont également montré un comportement de fausse alerte. Après avoir scanné une fleur parfaitement sûre, ils la rejetaient et ils s'envolaient comme s'ils voyaient une menace là où il n'y en avait pas. Une autre étude de 2006 arrive aux mêmes observations, aux mêmes conclusions par rapport aux abeilles mellifères qui démontraient le même comportement. Et certaines abeilles gardaient ce comportement anxieux même 24 heures après l'attaque simulée.
Alors moi, je vais revenir dans l'agréable et je vais parler notamment du jeu et du jeu chez les bourdons. Alors, c'est vrai qu'on a découvert ces dernières années qu'il y avait une variété d'animaux qui interagissaient avec des objets inanimés juste pour le plaisir et notamment pour jouer. C'est le cas de beaucoup de mammifères et de beaucoup d'oiseaux. Mais cela a également été démontré du coup chez les bourdons. Alors, cette expérience, il faut savoir que bien sûr, elle a suivi un cadre très strict. 5 critères ont notamment été définis afin d'enlever tout doute sur l'intention des bourdons. Donc le premier critère, c'est que le comportement, il ne doit pas répondre à un besoin soit de nourriture, soit de reproduction, soit d'abri. Le deuxième critère, c'est que le comportement ne doit pas nécessiter l'obtention d'une récompense. Le troisième critère, c'est que le jeu est répété, mais il n'est pas stéréotypé. Et le quatrième critère, les individus sont détendus et ne répondent pas à un besoin de faire baisser leur stress. Et enfin, le dernier, c'est qu'il n'y a pas de résultat immédiat et adaptatif à ce mouvement. Alors, les scientifiques, ils ont placé 45 bourdons dans une petite boîte, que eux, ils appellent une arène, avec deux choix. Il y avait un couloir pour rejoindre une zone où s'alimenter et un couloir pour rejoindre une zone contenant des petites balles de bois. Alors, ces couloirs, ils étaient identiques quant à leur forme, à leur hauteur, ce qui évite tout élément qui pourrait biaiser du coup l'étude. Et le résultat, il est sans appel. Les bourdons ont tous choisi, à un moment ou à un autre durant l'expérience, de faire rouler les balles pour jouer. Et les scientifiques, ils ont d'ailleurs repéré des points communs entre le comportement de ces insectes et celui de nombreux autres vertébrés. C'est que, par exemple, des différences d'âge sont présentes dans le jeu. Les jeunes bourdons ont fait rouler plus de boules que les bourdons plus âgés, mais également des différences selon le sexe, les mâles ayant fait rouler les boules sur une durée plus longue que les femelles. Donc, à partir de ces conclusions, l'étude démontre que le jeu pour les bourdons est une activité gratifiante à part entière. Et je le rappelle, elle a bien sûr suivi ce cadre strict, ce qui enlève tout élément biaisant cette étude. Et même, les chercheurs ont pu observer un effet positif à ce jeu. En entraînant un autre groupe de 42 bourdons à jouer dans des zones associées à une couleur, les bourdons ont ensuite montré une préférence pour toute zone de la couleur en question, ce qui démontre bien le plaisir qu'ils ont eu à jouer dans cette chambre avec les balles.
Et avant de passer à la deuxième pause musicale, nous voudrions aborder encore une autre thématique. Bon, cette fois, du coup, désagréable à nouveau. Mais c'est ce qui s'appelle la nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur. Pour les scientifiques, notamment justement dans les études sur la conscience des animaux, la perception de la douleur, c'est une question très importante. Parce qu'il s'agit non seulement du fait d'avoir des récepteurs qui permettent d'identifier qu'il y a un impact douloureux ou invasif, ça, tous les animaux en ont besoin justement pour permettre à leur organisme de survivre. Et donc, enfin, c'est dans le cadre de l'évolution que ça, normalement, beaucoup ont ces récepteurs. Mais les scientifiques essayent également de comprendre s'il y a une dimension plus subjective et plus affective derrière cet impact douloureux. Donc, comme nous, bah, quand on a mal, on est triste, on se sent pas bien, et on essaie de protéger les parties affectées de notre corps. Donc, avant, il a été largement affirmé que les insectes ne présentent pas de comportement d'autoprotection envers les parties du corps stimulées de manière douloureuse. Mais cette affirmation, en fait, n'a jamais été testée lors des expériences. Donc, dans l'étude tout fraîchement publiée de 2024, un collectif de chercheurs a souhaité tester si les bourdons présentaient un type de comportement d'autoprotection. Type de comportement d'autoprotection, c'est par exemple se toiletter, essayer de protéger la partie du corps affecté de façon douloureuse, etc. Bon, alors, ils ont touché une antenne de bourdon avec une sonde chauffée de manière douloureuse à 65 degrés. On sait, c'est probablement pas très éthique, mais c'est justement pour arriver à cette conclusion qu'ils font ce genre d'expérience. Ils ont constaté que, dans les deux premières minutes suivant cet impact, les bourdons nettoyaient davantage leur antenne touchée que leur antenne non touchée. Ils la touchaient, ils la nettoyaient, ils essayaient vraiment de la protéger un peu plus. Ils la nettoyaient également plus que les bourdons touchés avec une sonde non chauffée, ou pas chauffé du tout. Donc c'était important de le voir pour être sûr que ce n'est pas juste un comportement en réponse au fait qu'on les touche. Et donc ces résultats fournissent la première preuve quantitative d'un comportement d'autoprotection chez les insectes. Qu'est-ce que cela signifie quant à la probabilité que les abeilles ressentent réellement la douleur de façon subjective? Bon, cette étude partage avec d'autres le défi selon lequel il est actuellement impossible de savoir avec certitude si un comportement inclut la composante affective de la douleur. Donc, encore une fois, on n'a pas de témoignage verbal de la part du bourdon touché qui nous dirait que c'est vraiment désagréable, c'est douloureux, qu'il faudrait arrêter de lui faire ça. Pour évaluer si un animal peut ressentir la douleur, donc il est quand même utile de recueillir des preuves provenant de plusieurs lignes différentes d'investigation. Donc c'est ce qu'on a vu avec le comportement, mais c'est aussi des investigations neuronales et psychologiques dans les mesures du possible, afin d'essayer d'évaluer la probabilité du fait qu'il puisse ressentir la douleur ou pas. Alors, je vous propose de faire rapidement la deuxième pause musicale et je vous propose d'écouter Le vol du bourdon. We'll be right back.
Alors, du coup, après avoir parlé de la personnalité, des émotions, on s'est intéressé et on voulait vous parler du sommeil parce que beaucoup d'études ont été réalisées sur le sommeil et on s'est notamment posé la question de est-ce que les abeilles peuvent rêver? Alors, on sait que les abeilles, c'est l'insecte qui a aujourd'hui, qui présente un état semblable au sommeil comme nous, les humains. Celles-ci, avec tout le travail qu'elles réalisent, elles ont notamment besoin de se reposer et elles dorment en moyenne entre 5 et 8 heures par jour. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Les scientifiques ont même remarqué que les abeilles privées de sommeil ne peuvent plus communiquer efficacement entre elles et avec leur ruche, et elles ont même des difficultés à se déplacer. Donc les abeilles sont des sujets très intéressants pour étudier le sommeil et les rêves. Alors plus important encore, ces dernières, elles expriment trois stades de sommeil différents qui peuvent être identifiés par des caractéristiques comportementales. Mais par exemple, le stade le plus profond du sommeil est associé à l'immobilité complète des antennes, ce qui a permis aux scientifiques de présenter des stimuli pendant les différentes étapes de leur sommeil pour tester une hypothèse. C'est que le sommeil y joue un rôle dans la réactivation d'expériences acquises lors de la veille. Et grâce à une série d'expériences, les scientifiques ils ont pu valider cette hypothèse que le sommeil joue un rôle pour la mémoire des abeilles et que les abeilles pourraient stocker des souvenirs pendant qu'elles dorment. Et alors, c'est encore en question, mais c'est en bonne voie de réponse qu'elles pourraient même rêver comme nous.
Bon, bien sûr, quand on parle des rêves, là, vraiment, on entre dans le domaine de spéculation, puisque, encore une fois, sans témoignages verbaux ou autres signes très clairs et très sûrs, c'est compliqué d'affirmer ça. Mais en tout cas, le rôle du sommeil dans leur vie est très important. Et il y a des mécanismes qui se passent chez les abeilles. C'est un peu comme chez nous, quand on a appris quelque chose la veille, on a besoin de dormir pour mieux l'intégrer, pour mieux intégrer soit une information, soit une expérience, soit une capacité physique, et qu'en effet, le lendemain, on se réveille et on se rend compte que on le gère mieux que la veille. Ce qui est assez curieux, et c'est aussi le comportement que beaucoup de gens peuvent comprendre, je pense, c'est que les abeilles et les bourdons affectionnent la caféine dans le nectar. En grande quantité, attention, la caféine, c'est un insecticide naturel. Mais en petite dose, la caféine renforce l'attention, la concentration et la mémoire des abeilles et des bourdons, au point que les études montrent qu'ils se souviennent mieux et pendant plus longtemps des fleurs qui contiennent un peu de caféine en comparaison avec les autres. Alors, d'autres études démontrent aussi que c'est le cas non seulement avec la caféine, mais également avec la nicotine qui améliore également la mémoire, la concentration des abeilles et des bourdons et qui reviennent plus volontiers vers des fleurs qui contiennent de la nicotine. Certes, c'est tentant de faire ici des parallèles avec les comportements humains ou des addictions que nous connaissons ou que nous comprenons. Ce n'est peut-être pas le cas, donc nous préférons le préciser. Peut-être qu'une partie des études publiées jusqu'ici propose une mauvaise interprétation des données obtenues. C'est possible, mais néanmoins, d'un côté, vous savez que les chercheurs, c'est le groupe de gens qui sont les plus prudents avec des conclusions hâtives et qui établissent de nombreux critères permettant d'éviter l'anthropomorphisme dans leurs études. Et de l'autre côté, ces études, sans affirmer une certitude de 100%, nous proposent un doute raisonnable sur la capacité des abeilles à vivre des expériences conscientes et affectives. Et autant que ce doute n'est pas levé, il doit être pris en considération lors des études ou lors du traitement des insectes par les industriels, car le principe de précaution s'impose. Pour des raisons éthiques, nous ne devrions pas maltraiter les insectes, même si nous savons que malheureusement la bataille est loin d'être gagnée, même pour les mammifères. Voilà. C'est la fin de notre émission. Nous avons eu le temps de partager avec vous, pas tout, loin de là, mais peut-être les études les plus accessibles ou les plus parlantes qui explorent la question de la conscience des abeilles. Nous fournirons les références et les publications scientifiques sur lesquelles nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Et bien sûr, nous vous laissons décider par vous-même si vous trouvez ça convaincant ou pas.
Merci Lisa, merci
Morgane,
pour cette émission toujours très intéressante. On la retrouvera évidemment en ligne sur notre site. Pas d'agenda de date à nous donner avec les animations. Mais... On peut prendre deux petites minutes s'il y a des animations prévues ces jours-ci.
Alors, il y en a vraiment beaucoup. J'essaie juste de faire très rapidement le tour. Déjà ce samedi, on va être à Pierre Vert pour les Journées européennes du patrimoine. Donc, on va y être avec une exposition sur le canal du Manosque. Et on va faire des animations sur les usages de l'eau, l'eau dans notre vie, le rôle du canal, etc. Donc, on sera à Pierre Vert de 14h30 à 18h. Dans la salle de la Frache pour ces animations. Et donc, vous pouvez venir tout le week-end découvrir l'exposition sur le canal du Manosque. Mais également, ce week-end, on sera aussi à Digne, puisque, comme vous savez, il y a le festival de l'outdoor et de la randonnée. Du coup, on y sera avec notre projet Alpatou pour parler des gestes à adopter face à des chiens de protection quand on est en randonnée ou quand on fait du VTT ou autre. Donc du coup, on y sera les deux jours, surtout dans la matinée, parce que malheureusement, on n'a pas la capacité d'assurer les deux jours. On y sera surtout dans la matinée au plan d'eau de Digne, avec un stand pour parler des gestes adoptés face aux chiens de protection. Et c'est vrai qu'aussi un événement que je voudrais mentionner, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Les 25 et 26 septembre, c'est notre fédération régionale, FNEPACA, qui propose une formation pour animer leur web documentaire sur les rivières de notre région. Donc pendant deux jours, on va regarder trois web documentaires, il y aura des intervenants, on aura une sortie sur le terrain pour que les gens qui souhaitent organiser des projections de ces web documentaires puissent le faire et puissent animer au moins un petit peu les débats après la projection. Donc ça va se passer à Monetier-Almont, c'est dans le 05 mais pas très très loin du 04. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous au cas où ça vous intéresse. Encore un dernier événement, le 5 octobre, le samedi 5 octobre, on va être à Manosque avec À Fleur de Pierre. Comme vous savez, c'est l'association qui gère les jardins partagés. Et nous allons dans la matinée, il y aura la journée portes ouvertes dans le jardin Grain de Paradis. C'est le dernier moment de le découvrir avant le déménagement du jardin. Et dans l'après-midi, on va vous proposer un atelier sur l'eau et les possibilités de l'économiser dans son jardin. Donc comment mieux utiliser l'eau dans son jardin, comment aussi faire face à des périodes de sécheresse, à des périodes de manque d'eau, ou au fait qu'il y a aura de moins en moins de ressources en eau disponibles, tout en continuant à jardiner. Comment mieux jardiner, entre guillemets, chez soi. Donc, tous ces événements-là, ils sont sur notre site. Vous pouvez les découvrir et, bien sûr, n'hésitez pas à venir ou à vous inscrire quand ça demande une inscription.
Merci. Donc, le site FNE04.
Oui, FNE04.fr.
Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.